Le point de départ, c'est une photo. Une des premières photos de l'histoire. Elle a été prise au printemps 1838 par Louis Daguerre.
Le code a changé.
Daguerre a posé son appareil à la fenêtre de son atelier et il a photographié le boulevard du Temple à Paris. Ce qui est étonnant, c'est que sur la photo, le boulevard est vide. Alors qu'on sait qu'elle a été prise le matin, à un moment de la journée où normalement il grouille de monde. Là, on n'y voit personne. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand on regarde bien, on y aperçoit une silhouette. Celle d'un homme. Sa position indique qu'il devait être en train de se faire cirer les chaussures ou quelque chose comme ça. Si cet homme est à peu près le seul être humain ou animal qui apparaît sur cette photo, c'est que le temps d'impression nécessaire à l'époque pour que la lumière marque la plaque de cuivre était trop long pour saisir ce qui était en mouvement. Seul s'imprimait ce qui était immobile, c'est-à-dire les bâtiments, les arbres, les réverbères, les bancs. Et donc, sur la photo, le boulevard du Temple, qui ce matin de 1838 devait fourmiller de passants, de fiacres et de charrettes, ce boulevard, sur la photo, il est presque vide.
De la porte.
Je n'avais jamais entendu parler de cette photo avant qu'un monsieur ne l'évoque. C'était à une réunion où discutaient des gens dont le métier est d'archiver le web. Des gens dont le métier est donc de recueillir et de conserver pour l'avenir cette matière mouvante et insaisissable qu'est le web. Et donc, à un moment de la réunion, ce monsieur a dit « Voilà, nous, les archivistes du web, on est comme Daguerre en 1838. On essaye de capter un réel qui va trop vite pour nos outils, mais on le fait quand même. » Et donc, depuis ce jour, je me suis dit qu'il faudrait s'intéresser à cette activité très belle qui consiste à vouloir fixer ce qui bouge tout le temps, à capter ce qui se dérobe et conserver ce truc hyper fuyant qu'est le web.
Le code a changé.
Valérie Schaffer est historienne des technologies. Elle est chargée de recherche au CNRS et elle a écrit sur le Minitel, sur ARPANET, qui est un ancêtre américain de l'Internet, sur le début du web français aussi. Alors, elle raconte souvent qu'elle n'a découvert les archives du web qu'à la fin des années 2000. Un jour, un historien danois lui parle d'un truc qui s'appelle Internet Archive, créé en 1996 par un Américain du nom de Brewster Kahle, dans l'idée d'archiver. Alors quand Valérie Schaffer découvre Internet Archive, ça fait déjà quelques années que Brewster Kahle a mis à disposition des internautes un programme qui s'appelle la Wayback Machine et qui sert à parcourir ces archives déjà énormes.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
Je dis, bon, quand même, faut que je comprenne, il faut que j'aille voir, ce qui est assez logique, hein. Et donc, je vais sur la Wayback Machine. Et là, c'est, je vais dire une sorte de coup de foudre, hein, avec ces archives du web. Je les ai pas, du coup, lâchées depuis, mais ça fait une petite décennie. Et voilà. Et je commence tout bêtement, en arrivant sur la Wayback Machine, par taper, alors, je sais plus, enfin, le nom d'une institution. Je crois que c'était déjà à l'époque le CNRS. Et là, je découvre.
Sexy.
Mais à l'époque, on pouvait chercher aussi, et pas de mots-clés. Dans la Wayback Machine, il fallait taper une URL qu'on connaissait. Donc, réflexe, voilà, très professionnel. Non, et là, je suis épatée parce que je m'attendais à quelque chose d'assez statique. Et en fait, c'est des archives interactives dans lesquelles on peut passer de lien en lien, passer à travers les époques. Il y a quelque chose là de, à la fois d'archivé, mais à la fois qui paraît totalement immersif et vivant. Il y a cette espèce d'émerveillement, hein, vraiment au départ sur cette entreprise aussi titanesque. Intellectuellement aussi, je trouve ça assez fascinant.
Alors, c'est sûr qu'intellectuellement, Internet Archive, c'est fascinant. Bon, déjà, il faut être assez visionnaire pour sentir, en 1996, que le web, qui a 6 ans à peine, hein, va devenir aussi important pour l'humanité. Et qu'il faut donc l'archiver. Il faut être assez visionnaire, ok, mais aussi techniquement balèze. Parce que si le web de 1996 était peut-être moins complexe qu'aujourd'hui, il était déjà divers, il était déjà mouvant. Et puis les machines de l'époque qui allaient faire le travail d'archive, hein, elles étaient beaucoup moins performantes. Bref, ça mérite que Valérie Schaffer explique un peu ce qu'est Internet Archive.
C'est un rêve et une entreprise donc qui est lancée par Brewster Kahle, qui a déjà à l'époque travaillé dans le numérique, hein, notamment sur tout ce qui est référencement, avec une entreprise qui s'appelle Alexa et qui déjà couille le web et qui, alors sensible à l'idée de ce qu'on appelle parfois le digital dark age ou ce risque de disparition, hein, de tout ce qui se passe sur la toile, sensible aussi à tout un héritage, hein, dans l'histoire à la fois des bibliothèques mais à la fois aussi du numérique, de préservation des documents. On peut remonter très loin, on peut remonter à un des pères de la documentation moderne, Paul Hotley, et à d'autres, se dit, bah voilà, je vais archiver le web. Et je vais l'archiver, si possible, exhaustivement. Aujourd'hui, on a 400 milliards de pages web archivées, mais c'est pas exhaustif.
400 milliards.
Ouais. Oui, oui.
Mais c'est pas exhaustif.
Mais c'est pas exhaustif.
400 milliards de pages web archivées. Oh, c'est dingue. Alors, j'ai cherché une comparaison. La plus grande bibliothèque au monde, c'est, je crois, la bibliothèque du Congrès à Washington, aux États-Unis. Elle compte plus de 38 millions de livres. Alors, si on considère arbitrairement que chaque volume fait 500 pages, ça veut dire que la bibliothèque du Congrès contient 15 milliards de pages papier. Bon, c'est déjà énorme. Mais par rapport aux 400 milliards de pages web que contient Internet Archive, alors là, c'est vraiment pas grand-chose. Valérie Schaeffer a dit que ce rêve d'archivage exhaustif est lié à l'histoire des bibliothèques. Et elle a cité un nom, Paul Hotley. Alors là, il faut dire quelques mots de Paul Hotley parce que c'est vraiment un personnage fascinant. Paul Hotley, c'est un bibliographe belge, donc un spécialiste du livre, né en 1868 et mort en 1944. Donc, il est bibliographe, mais aussi parce qu'il est avocat, socialiste, pacifiste et utopiste, Paul Hotley a une idée assez vaste de ce à quoi servent les bibliothèques. Pour lui, elles servent à faire accéder le plus grand nombre, et le plus facilement possible, au savoir que contiennent les livres. Et donc, Paul Hotley, il a passé sa vie à inventer des dispositifs pour réaliser cette utopie, recenser et classer tous les savoirs du monde dans l'idée qu'ils sont garants de la paix entre les hommes. Donc par exemple, en 1895, il crée le répertoire bibliographique universel, une sorte de catalogue de tous les livres publiés sur tous les sujets. 10 ans plus tard, donc en 1905, il crée la classification décimale universelle, assez connue sous l'acronyme CDU, c'est-à-dire le système de classement des livres dans les bibliothèques, celui qui est toujours en vigueur aujourd'hui dans la plupart des bibliothèques du monde. Et il imagine aussi une encyclopédie qui contiendrait des fiches de synthèse sur tous les savoirs du monde. Donc une sorte de Wikipédia avant la lettre. Alors là où Hotley est véritablement un visionnaire, c'est qu'il prévoit que bientôt, l'écrit ne sera plus le seul support du savoir. Et donc, dès 1910, il s'intéresse par exemple au microfilm. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en 1934, Hotley écrit un livre à l'intérieur duquel on lit le texte suivant. Je cite. « Ici, la table de travail n'est plus chargée d'aucun livre. À leur place se dresse un écran et à portée un téléphone. De là, on fait apparaître sur l'écran la page à lire pour connaître la question posée par téléphone avec ou sans fil. Un écran serait double, quadruple ou décuple s'il s'agissait de multiplier les textes et les documents à confronter simultanément. Il y aurait un haut-parleur si la vue devait être aidée par une audition. » Utopie aujourd'hui parce qu'elle n'existe encore nulle part, mais elle pourrait bien devenir la réalité de demain pourvu que se perfectionnent encore nos méthodes et nos instrumentations. Voilà, il écrit ça en 1934. Alors évidemment, ça fait penser à Internet. C'est pour ce texte, entre autres, qu'on considère que Paul Hotley a imaginé Internet plusieurs décennies avant qu'il n'existe, à une époque où même les ordinateurs n'existaient pas. Ce qui est quand même assez fort. Et donc c'est pas un hasard si c'est un homme des bibliothèques qui a ce rêve. Parce qu'au départ, dans les deux cas, c'est une histoire de documents. Et donc, Bruce Turkell, quand il crée Internet Archive en 1996, il crée une nouvelle archive en récoltant de nouveaux supports, mais en même temps, il s'inscrit dans une histoire qui est une histoire déjà très longue. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une réplique d'Internet Archive, un site miroir donc, est je crois stockée dans la bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte. Bref, en écoutant Valérie Schaeffer, je me dis que c'est drôle comme les rêves se prolongent à travers le temps. Et d'ailleurs, le programme qui sert à chercher dans Internet Archive, Bruce Turkell l'appelle Wayback Machine, la machine à remonter le temps. Et là encore, c'est une vieille référence. Mais est-ce que cette machine, cette Wayback Machine, elle ressemble vraiment à une machine à remonter le temps?
Attention!
Sur le bandeau de la Wayback Machine, longtemps, c'était Browse History. Donc, on pouvait parcourir l'histoire. C'était cette idée qu'on allait remonter dans le temps. On peut retrouver des tas de choses. On peut retrouver des sites depuis 96. Effectivement, on peut retrouver des événements qui ont été marquants à travers cette toile archivée. Après, l'expérience même de l'utilisateur de la fin des années 90, par exemple, avec nos terminaux ultra-modernes, nos débits rapides, avec les bandeaux aussi temporels et tout ce qui est métadonnées rajoutées par Internet Archive et tout. Non, on n'a pas une expérience totalement similaire, mais il y a quand même une émotion.
Alors ça, c'est pour Internet Archive. Mais les archives du web, c'est pas simplement Internet Archive qui archive le web mondial, certes, mais qui est un organisme américain. En France, par exemple, il y a un archivage du web institutionnel national, un dépôt légal du web, comme il y en a pour les livres. Une partie du web français est archivée par la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, et une autre, celle qui concerne les médias, est archivée par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Mais je demande à Valérie Schaffer dans quelles circonstances le dépôt légal du web a été créé. Parce que ça va pas de soi de mettre en place une telle politique de conservation.
Le dépôt légal à la BNF et à l'INA, il est lancé 10 ans après Internet Archive, en 2006, à travers la loi DAFSI, qui est une loi qui a été surtout réputée pour ses éléments de plutôt surveillance. Mais il y a une dimension, effectivement, conservation dedans et conservation d'un patrimoine, alors qu'on commence à appeler patrimoine nativement numérique, depuis une charte de l'UNESCO de 2003, notamment, qui a reconnu ce patrimoine.
La reconnaissance du web comme patrimoine par l'UNESCO et une loi, donc la loi DAFTI, qui est restée célèbre pour d'autres raisons, c'est donc ça qui a créé le dépôt légal du web français. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'autres pays vont suivre la même voie avec des processus qui peuvent différer un peu. Mais se constituent donc, au milieu des années 2000, un peu partout, des archives nationales du web. Mais il y a des choses plus bizarres. Par exemple, le projet de la Bibliothèque du Congrès à Washington d'archiver Twitter. Alors ça m'a toujours fasciné. Cette idée que tout Twitter soit disponible dans la bibliothèque du Congrès. Je trouve ça assez beau que cohabitent dans le même espace des volumes très très précieux et des disques durs avec toutes les conneries qui sont dans Twitter. Il n'y a pas que des conneries dans Twitter, mais il y en a aussi. Elle en pense quoi, Valérie Schaffer, de ça?
En fait, c'est pas un projet tout à fait d'archivage de Twitter par la librairie du Congrès. C'est un accord qui a été fait entre Twitter et la librairie du Congrès pour que la librairie du Congrès puisse bénéficier des archives de Twitter. Donc ça passe par ce qu'a collecté Twitter au départ. Et pour l'instant, honnêtement, c'est pas une grande réussite. C'est stocké, c'est là. Il y a quelque chose, mais c'est pas encore accessible au public.
Ok, mais j'avais lu quelque part que si ces archives rendues disponibles par Twitter n'étaient pas encore accessibles au public, c'était parce qu'on ne disposait pas encore des outils adéquats pour fouiller dedans, qu'il y avait trop de données à traiter pour les programmes et que donc on archivait aujourd'hui en pensant pouvoir un jour exploiter tout ça, mais qu'en attendant, on ne pouvait rien en faire. Ce que je trouvais encore une assez belle idée. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ?
Il y a quelques années, c'est ce que mettait en avant la librairie du Congrès. C'était la difficulté, effectivement, le temps qu'il fallait pour rechercher dans ses tweets, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a toujours pas les moyens de brasser une telle masse de données ? Je suis un peu sceptique. Je pense qu'il y a d'autres enjeux derrière et qui sont des enjeux certainement aussi d'accès aux utilisateurs. Parce qu'on a là des données qui posent de véritables enjeux en termes d'éthique, on peut croiser des données d'utilisateurs à vaste échelle. L'INA, alors on est loin de ces archives Twitter de la librairie du Congrès, mais a par exemple lors des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, mais aussi de Nice et d'autres, collecté ce qui se passait sur Twitter. Et c'est plus de 30 millions de tweets pour Charlie Hebdo et le Bataclan qui ont été conservés. Et comme on peut pas sortir ces tweets des enceintes de l'INA, on les consulte sur place, ils ont développé aussi des outils pour consulter ces tweets, alors que ce soit ceux des attentats ou d'autres, et des moteurs de recherche, des visualisations, etc.
Oh là 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 là, qu'est-ce que j'entends ? C'est quoi ces archives des attentats de 2015 ? C'est donc que, en plus des collectes régulières, on peut faire des collectes spéciales, des collectes d'urgence, on peut décider de garder trace d'un événement qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Reprenons. Les attentats de 2015 ont lieu, et là, qu'est-ce qui se passe ?
Côté BNF, comme côté INA, dès le lendemain ou quelques heures après, il y a le sentiment qu'il faut conserver, qu'on vit un événement, qu'il faut en garder trace aussi. En dehors des institutions, on a aussi eu ce sentiment de nécessité. Je pense à des chercheurs, à Romain Badoir qui va collecter le « Je ne suis pas Charlie » à la suite des événements. Je pense à un Canadien, Nick Ruest, alors, qui appartient aussi au monde des bibliothèques, mais qui à titre personnel, lorsqu'il découvre les événements, se dit « Il faut faire quelque chose, si personne ne le fait, je préserve cette trace. »
Mais c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée de préserver cette trace ? Qu'est-ce que tu vas y trouver que tu ne trouves pas ailleurs ? Qu'est-ce que tu espères y trouver ou garder ?
Je pense par exemple au travail très intéressant récent d'un collègue qui s'appelle Jérôme Truc, qui est spécialiste des attentats, qui a écrit un beau livre qui s'appelle Sidération, et qui lui a très bien montré, par exemple, dans les premières heures de l'événement, d'abord comment on va nommer ce qui se passe, comment on va passer du terme fusillade ou attaque au terme attentat, etc. Donc on voit la fabrique de l'événement par le choix aussi des hashtags et de leur provenance en temps réel, hein, quasiment, au cours des attentats. On apprend des tas de choses.
Auparavant, on n'avait pas accès à tout ça, à ce que pensaient les gens, à leurs émotions, aux conversations. C'est quand même incroyablement nouveau, non ? C'est plein de possibles. Bon, là, Valérie Schaeffer, elle tempère un peu mon enthousiasme. On n'était pas complètement sans ressources non plus avant Internet.
Il y avait les journaux intimes, il y avait les courriers des lecteurs, il y avait des tas de choses, pas forcément en temps réel, mais qui permettaient aussi de saisir ce que, entre guillemets, l'individu ordinaire voulait ou pouvait ressentir ou exprimer. Il y avait, au moment des attentats, il y a une vague hein, au milieu des années 90 en France aussi, des micro-trottoirs, etc. Mais on n'avait effectivement pas cette masse de réactions dont il faut en même temps être conscient qu'elle a aussi des biais. Hein, c'est Twitter, c'est un quart de, enfin, je sais même pas si c'est un quart de la population qui l'utilise, c'est très très peu. C'est des profils hein, aussi catégories socio-professionnelles, etc. Très spécifiques.
Oui, bon, évidemment, Twitter a des biais. Mais les documents, ils ont toujours eu des biais, les archives ont toujours eu des biais. Et là, je pense à une discussion que j'ai eue récemment avec une historienne, Clémentine Vidal-Naquet. Clémentine Vidal-Naquet, elle travaille sur la guerre de 14, et notamment sur l'histoire des couples pendant la guerre de 14. Et donc, ce qu'elle manipule, ce sont beaucoup d'archives intimes, familiales, des correspondances, des journaux, des albums photos. Et elle me racontait une archive particulière sur laquelle elle était tombée. Un album photo d'un ancien soldat de la Grande Guerre qui, juste après la démobilisation, s'était marié. Et pour son voyage de noces, où il emmène son épouse, eh ben, sur les lieux de la guerre.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile.
Un an après la fin de la guerre, le type emmène sa jeune épouse dans les tranchées. Alors, Clémentine Vidal-Naquet, elle trouve cette archive passionnante dans ce qu'elle dit d'un certain rapport à la guerre. Mais elle me disait aussi que ce type d'archive pose une question à l'historienne qu'elle est. Aussi passionnante soit-elle, cette archive, eh ben, elle est singulière. Donc, est-ce que les conclusions qu'elle en tire sur un rapport à la guerre, par exemple, est-ce que ces conclusions, elles sont généralisables ? Est-ce que ça raconte quelque chose au-delà du cas particulier de ce soldat particulier qui a voulu montrer les tranchées à sa femme ? Ben, ça, c'est un problème pour l'historien. Or, avec le numérique et la masse d'archives, eh ben, on peut beaucoup plus facilement généraliser. C'est plus un album photo conservé par une famille particulière qu'on étudie, mais c'est des centaines de milliers de photos, des centaines de milliers de propos tenus dans des blogs, dans des posts. Et puis on a accès aux conversations, encore une fois, à ce que les gens se racontent les uns aux autres. Et donc je me dis que ça, ça doit être un rêve d'historien de pouvoir avoir accès à tout ça, à une telle masse.
Alors, rêve d'historien, je pense que les historiens se ressemblent pas. Il y a une variété d'historiens. Il y a une partie des historiens pour qui, aujourd'hui, déjà, on n'a pas assez de recul sur ces matériaux qui les feront pas rentrer dans leur champ d'expertise et qui sont pas forcément intéressés par cette lecture par le bas. Et puis, il y a sûrement, au contraire, des potentialités énormes pour d'autres historiens intéressés à ces modes de discussion, d'interaction, effectivement.
Parce que quand même, archiver les conversations, c'est un rêve, même c'est un rêve du pouvoir, mais c'est aussi un rêve de ce que les gens se racontent, quoi. C'est quand même incroyable d'avoir accès à ça.
Alors, est-ce qu'ils se racontent, ils se racontent sur Facebook, par exemple? Oui, mais alors Facebook est beaucoup moins bien collecté parce que ça pose des problèmes de statut, des messages publics, privés, de comment conserver Facebook. On est loin du compte hein, sur l'archivage de la collecte de Facebook. Sur Twitter, on suit effectivement des fils, on suit des échanges. Après, c'est pas forcément non plus les conversations du quotidien.
Bon, encore une fois, elle n'a pas complètement tort de tempérer mon enthousiasme, Valérie Schaeffer. Oui, c'est vrai, Twitter, ce ne sont pas les conversations du quotidien. Les commentaires qu'on trouve sur les sites d'information, enfin qu'on trouvait parce que c'est de moins en moins le cas, eh ben, c'est pas non plus les conversations du quotidien. C'est un type particulier de conversation entre le privé et le public. C'est pas complètement la conversation entre copains, mais c'est pas complètement non plus la conversation de café, c'est pas non plus le débat public complètement. Bon, bref, c'est compliqué de définir le statut de ce qu'on conserve. Et puis, il y a un autre problème. C'est qu'elles ont beau être hyper massives, ces archives, eh ben, elles sont pas exhaustives. Par exemple, pour ce qui concerne celles qui sont conservées à la BNF et à l'INA, eh ben, elles relèvent d'un choix politique bien défini.
Alors, elles sont définies par la loi qui, en France, va dire bah, y a du .fr, mais il y a ensuite d'autres règles. Ça peut être du .com, à condition que l'entreprise soit implantée en France ou un Français à l'étranger. Mais voilà, donc on ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas collecter tout azimut quand on est dans un cadre national. Et puis, il y a des choix qui sont aussi des choix budgétaires, des choix aussi, quand je dis patrimoniaux, c'est comme on n'archive pas tous les jours, tous les sites, il y a une grande collecte annuelle, là qui porte hein, du côté de la BNF sur plusieurs millions de noms de domaines, mais la collecte qui va être quotidienne, par exemple, elle a fait le choix de se porter sur la presse. On aurait pu faire d'autres choix, mais c'est ce qui a paru à la bibliothèque légitime.
Ça, c'est le côté toujours vertigineux de la conservation. Elle doit répondre à une question à laquelle il est quand même très très dur de répondre. Qu'est-ce qui intéressera dans l'avenir ? Bon. En l'occurrence, pour le web, ça va décider de la fréquence à laquelle on organise la collecte. Et c'est sûr que c'est pas pareil d'aller collecter un site une fois par an ou de le collecter tous les jours. Mais bon, je me pose une question très technique. Cette collecte, bon, qu'elle soit quotidienne hein, pour les sites de presse ou annuelle pour d'autres sortes de sites, bah, j'imagine qu'elle n'est pas faite à la main, que ce sont des robots qui la réalisent.
Oui, oui, c'est des robots qui sont programmés, en fait, et qui vont, à la récurrence à laquelle on leur a demandé de le faire, aller cliquer sur des sites et sur des liens. Et on leur a dit aussi, est-ce que vous devez cliquer à 3 clics de profondeur ou à 2 et aller vous balader de façon très large ou pas?
C'est quoi des clics de profondeur?
Ben, c'est-à-dire quand on arrive sur la page d'accueil d'un site web, on va trouver plein d'hyperliens, c'est le principe du web dedans, et on va dire au robot, ben, tu as le droit d'aller cliquer et de collecter la page qui s'ouvre ensuite, mais tu vas pas trop profond, tu nous fais pas 16 pages d'affilée parce qu'on veut pas toute la profondeur du site.
Okay.
Et puis pareil, tu vas pas te balader trop loin parce que quand tu cliques, tu sors parfois aussi du site par des hyperliens pour collecter aussi la page liée.
Donc mais... c'est pas simplement des photographies.
Ah non, 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 c'est pas des captures d'écran, c'est vraiment on retrouve de l'interactivité, les hyperliens fonctionnent, on se promène dans le site.
Ok, mais est-ce que pour autant, on a l'impression de s'y promener comme on s'y promenait à l'époque dont datent ces pages ? C'est marrant parce que, en écoutant Valérie Schaeffer, je pense à ces musées un peu cheap où on reconstitue le passé. En Auvergne, par exemple, près de Saint-Julien-aux-Bois, il y a un truc qui s'appelle les fermes du Moyen-Âge. Alors c'est une sorte de village médiéval reconstitué avec sa végétation médiévale, ses chemins médiévaux, ses bâtisses médiévales, ses meubles du Moyen-Âge. Bon, il y a même des cochons rabougris pour faire un peu genre à l'époque, quoi. Bon, c'est super, mais je ne peux pas dire qu'on ait complètement l'impression non plus d'être au Moyen-Âge. Donc je me demande si les archives du web, elles produisent le même effet, ou si vraiment on se promène dans les sites tels qu'ils étaient quand ils ont été archivés.
Alors, tel qu'il était, c'est là qu'est tout le débat. En fait,
ah oui.
Pas totalement, puisqu'on va régulièrement tomber sur des liens qui s'arrêtent. La page suivante n'a pas été collectée. C'est une question de profondeur, c'est une question de collecte ratée, c'est une question de plein de choses. On va trouver parfois des éléments manquants, parce qu'il y a des formats qui passent pas, ou des robots impatients qui sont partis un peu trop vite et qui ont oublié de récupérer l'image qu'elle est avec. Et puis
c'est beau l'idée de robots impatients.
Oui, non mais ça on l'avait vu dans une archive de l'INA qui était pleine de trous et je m'étais dit mais il peut pas collecter les images. Et puis à la même époque il y en avait par ailleurs partout. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à l'INA il m'avait montré le code source et on voyait qu'en fait le robot était resté que quelques secondes, était parti et qu'il avait fait son travail comme un cochon, quoi, pour le dire ainsi. Donc il y a des ratés parfois dans la collecte. Et alors ce qui est très particulier, c'est dur à expliquer en quelques mots, mais c'est surtout au début de cette collecte, impossible de faire un contrôle qualité sur tout ce qui sort. Hein. On stocke, mais il y a des milliards, hein, c'est ce qu'on disait, de pages archivées. Et il y a personne derrière pour vérifier à la main si c'est bien fait. Et en fait, on voit dans, en particulier, la Wayback Machine, des sauts temporels. C'est-à-dire que parfois, la page d'accueil, on va cliquer sur un lien qui nous amène 3 mois après, parce que la page suivante qui avait le lien a été collectée que 3 mois plus tard.
Alors ça, j'aime beaucoup, cette idée d'hybride temporel. Ça me fait penser à une amie de mes grands-parents qui était très très forte en histoire du mobilier, en histoire des tissus, en histoire de la décoration d'intérieur. Elle savait exactement à quelle époque telle tenture était apparue, comment étaient les poignées de porte sous Louis XV, etc. Et cette dame, eh ben, elle souffrait énormément quand elle allait visiter des châteaux avec des pièces censées restituer l'intérieur à une époque précise. Elle disait, ah, mais non, mais c'est pas possible, ces cheminées-là, mais elles n'existaient pas dans la région à ce moment-là. Et puis là, ce secrétaire-là, évidemment, bah, il a 2 siècles de plus. Et puis on n'a jamais vu des parures de lit avec des motifs comme ça à cette époque-là, non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que elle voyait, elle aussi, des hybrides temporels partout. Elle visitait ces châteaux comme nous, on visite ces sites internet archivés. Mais alors, du coup, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'authenticité de ces pages web qui sont archivées? Comment être certain que la page qu'on voit est bien celle qui était vue à l'époque où elle a été archivée? C'est quand même une question centrale, ça, l'authenticité du document quand on fait de l'histoire.
Le code a changé.
Certains invitent à faire de la philologie ou de la diplomatie hein, des pages web, c'est-à-dire à travailler sur leur authenticité, à travailler sur justement ces anachronismes qui se glissent, ces différents. On a aujourd'hui des outils. Par exemple, dans Internet Archive, ils ont développé un outil qui permet d'afficher le moment où chaque élément de la page a été collecté. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des, même dans une page qui paraît authentique, des sceaux et des éléments qui avaient été collectés. Un logo, une carte, auparavant, une image qui est venue après, qu'on a comme ça une espèce de patchwork temporel assez...
Parce que c'est ça, une page web, c'est extrêmement composite.
Mais oui.
Et donc, donc on n'arrive pas à recomposer exactement cet aspect composite dans l'état de la personne qui était face à la page au moment T.
Non. Pour différentes raisons, parce que le temps que le robot crawl, ils sont de plus en plus rapides maintenant, il peut y avoir eu des changements, des mises à jour dans la page, il peut faire son travail, entre guillemets, hein, de façon effectivement un peu insuffisante, et puis il y a des trucs qu'on recollecte pas. Par exemple, quand on a la page du CNRS et son logo, le logo, on va pas le recollecter à chaque fois, en fait, et faire des doublons.
Donc, ça veut dire quelque chose d'à la fois grave et passionnant. La page web archivée n'est pas celle consultée. Jamais, ou presque. C'est très différent d'autres documents quand on y pense. Un livre, par exemple. Un livre qui a été archivé il y a quelques siècles. Il est le même aujourd'hui que quand il est entré dans les archives. Quand je vais consulter un ouvrage en bibliothèque, c'est celui que tenait dans la main le lecteur du passé. Eh ben, ça n'est pas le cas pour une page web. Ça veut dire qu'une page web, c'est une archive par définition, donc inauthentique, imparfaite.
Non, mais alors c'est imparfait, ça l'est encore plus à la fin des années 90 qu'aujourd'hui. Il y a eu d'énormes évolutions hein, dans la manière dont on collecte, notamment le flux, dont on va intégrer les images, les vidéos, etc. Mais ça n'empêche pas la prudence, effectivement, de se dire on n'a absolument pas une copie parfaite du web en l'état et tel qu'il était.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de revivre l'expérience exacte.
De toute façon, on la revit pas non plus lorsqu'on a en main le un manuscrit du Moyen-Âge. Hein. On le lit pas de la même façon. On a certes, on l'a entre les mains, mais on ne revit pas l'expérience de lecture médiévale et on a un effort d'imagination et de compréhension, d'intelligibilité, enfin vraiment cognitive à faire. Et ben c'est pareil pour le web. On est d'accord, il y a pas d'authentique au sens copie parfaite et ça pose un vrai débat. Par exemple, l'Office des publications européennes qui doit archiver les sites des institutions européennes fait lui un contrôle qualité sur ses archives en disant une fois qu'on a fait tout ce passage, on va revérifier le résultat pour voir si ça ressemble ou pas à ce qu'on avait au départ. Mais ils vont éventuellement réintervenir sur la page ou refaire la collecte s'ils estiment que le résultat n'est pas convenable.
Ils recomposent a posteriori le document.
Mais qui est de toute façon un composite.
Ouais, c'est sûr. Une page web, ça n'est pas un objet uniforme et statique. C'est composite et c'est mouvant. Dedans, il y a des formats différents, il y a des programmes différents, il y a du texte, il y a une vidéo, il y a une photo, et puis ça bouge. Par exemple, la publicité. Sur un site, la publicité change tout le temps. Et parfois, elle n'est même pas la même selon l'internaute qui consulte le site. Comment donc archiver un truc qui bouge tout le temps et qui n'est pas le même pour tout le monde? C'est sûr que dans ces conditions, l'authenticité, elle peut toujours être mise en cause. Hein. Quand on pense que c'est ça que les historiens et archéologues du futur auront entre les mains pour étudier notre civilisation, j'avoue que je trouve ça un peu abyssal.
Xavier Delaporte.
L'an dernier, je suis allé faire un reportage à l'IMEC. L'IMEC, c'est l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. On y trouve les archives de nombreux écrivains contemporains, fin 19e, 20e, 21e siècle, des archives de revues, de maisons d'édition, etc. Bon, ce trésor, il est abrité dans les sous-sols d'une abbaye à quelques kilomètres de Caen. Et ces archives sont la plupart du temps matérielles, des livres, des manuscrits, des carnets, des lettres, des objets aussi. Mais de plus en plus, elles consistent en des disques durs. Parce que les auteurs d'aujourd'hui, ils travaillent sur des ordinateurs. Donc le travail du conservateur, ça va être de fouiller dans des fichiers informatiques. Avec toutes les questions que ça pose. Le jour où j'étais à l'IMEC, un des conservateurs était en train de travailler sur un disque dur ayant appartenu à un auteur mort il y a quelques années. Et il m'expliquait qu'il n'arrivait pas à ouvrir tous les fichiers parce que c'était de vieux fichiers qui avaient été transférés de disque dur en disque dur. Bon. Et là, ce jour-là, le conservateur, il était hyper content parce qu'il avait enfin réussi à trouver le bon logiciel pour ouvrir un fichier de cet auteur qui lui résistait. Bon, pas de bol, c'était des relevés bancaires. Anecdotique, mais pas seulement. Parce que de plus en plus, les chercheurs travaillent sur des supports numériques, soit parce que les archives ont été numérisées, la presse, le patrimoine littéraire, soit parce que les documents d'origine, donc, sont numériques, ce qui risque d'être de plus en plus le cas dans l'avenir. Donc voilà, bon, mon romantisme du chercheur face à son vieux parchemin qui tombe en poussière, bon, il en prend un coup. Ok, bon, mais il y a une autre question que je me pose sur ces archives du web, mais qui se pose en fait pour les archives numériques en général. Comment on fait non seulement pour que ça reste lisible, alors que les formats ne cessent d'évoluer, mais surtout pour que l'archive soit pérenne, qu'on puisse encore la conserver, la consulter dans 10, 20, 30, 100 ans.
Il y a un énorme travail, de la part des institutions pour trouver des changements de format, de l'émulation, etc. et conserver effectivement ce patrimoine. Donc de ce côté-là, je suis moins inquiète que sur le risque. Alors il y a eu des accidents, les Portugais notamment, archivo.pt, ont été victimes d'un incendie de leurs locaux et ils ont perdu une partie des fonds qu'ils avaient collectés.
Les serveurs ont
donc
brûlé.
Mais comme peuvent brûler, on a eu des cas d'archives, aussi bien en France, on pense aussi au Brésil et à son musée. Donc la perte, elle peut exister. Après, avec le numérique, il y a aussi des possibilités, évidemment, de sauvegarde aussi, sécurisation. Et de ce côté-là, côté BNF comme INA, par exemple, on est équipé. À l'arrivée de Trump au pouvoir, Bruce Turkel avait lancé une campagne aussi de communication pour dire « Faisons un miroir au Canada de Internet Archive et de ses ressources. » Parce que le risque, c'est aussi des pressions éventuellement politiques, voire géopolitique, il y a eu des coupures en Jordanie, en Chine et autres d'Internet Archive. Donc voilà, il y a aussi l'idée qu'on peut faire des copies.
Mais il y a un autre problème. Le web, c'est aussi une matière mouvante. En dehors des formats des archives qu'il faut faire évoluer pour qu'ils restent lisibles, il y a les programmes qui sont utilisés dans le web lui-même. Les changements techniques constants, ces programmes. Alors, est-ce que les gens qui archivent s'en inquiètent ?
Alors, on s'en inquiète et on s'en inquiète en fait au quotidien parce que, par exemple, que ce soit YouTube ou d'autres, il y a régulièrement aussi des mises à jour et des changements qui font que les robots peuvent, du jour au lendemain, se retrouver bloqués et ne plus pouvoir faire leur travail parce que, justement, les accès, les formats, tout ça a changé. Il y a derrière des moyens informatiques, des équipes d'ingénieurs qui sont capables, très rapidement, de réagir et de voir comment on s'adapte aux changements, effectivement, techniques. De la même façon que les silos, de plus en plus dans l'Internet et le web, l'idée qu'il faut des mots de passe, etc., peuvent faire barrière à cette collecte. Donc effectivement, il y a en permanence des défis techniques et certes le web a évolué, il a fallu adapter aussi les collectes, mais c'est moins des évolutions techniques, à la limite des évolutions juridiques, des évolutions du web en îlot d'applications qui posent problème.
Alors ça c'est intéressant, parce que en effet, depuis 1996 et le début de l'archivage du web par Bruce Turkel, le web a changé. Bon, bien sûr, il a changé techniquement, mais il a changé aussi architecturalement. Et cette folie des mots de passe qu'on connaît aujourd'hui, qu'on nous demande d'entrer toujours quand on arrive sur un site, ça doit être forcément un obstacle à l'archivage, bon, bien sûr. Et puis, il y a aussi le fait que notre usage d'Internet s'est transformé. Sur nos téléphones, on navigue de moins en moins sur le web, on passe par des applications. Ça, les applications, je vois pas bien comment on peut les archiver. sauf si ce sont des web applications, bon, c'est-à-dire des applications qui sont aussi des sites web. Bon, tout ça, ça dépasse mes compétences techniques. Bon, ok, il y a des parties du web qui échappent à la collecte, et peut-être de plus en plus. Mais à part Internet Archive, qui archive tous les sites, les autres collectes, elles se font la plupart du temps par des institutions qui sont nationales. Et là, ça pose quand même un problème. Parce qu'il y a des pays qui disparaissent, par exemple, et puis il y a des pays peut-être qui s'en moquent d'archiver leur web. Donc, peut-être qu'il y a des trous noirs nationaux dans les archives du web. Et alors là, Valérie Schaffer, elle me parle des travaux d'une chercheuse du nom de Anat Ben-David, qui, au dire de Valérie, fait toujours des travaux extraordinaires.
Elle a par exemple essayé de reconstituer le point YU du web de l'internet yougoslave en disant c'est quand un pays disparaît, son nom de domaine avec, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Et elle a essayé de voir ce qui avait été archivé, de reconstituer ce nom de domaine par tout un travail vraiment là extrêmement riche.
Alors il reste quoi?
Ah ben, il en reste pas mal de choses parce qu'elle a retrouvé des listes de sites. En fait, on a du point YU et une vision grâce à elle assez claire de ce web yougoslave. Et comme elle a tout le temps des idées originales et intéressantes, un autre défi qu'elle a relevé, c'était dire et celui de la Corée du Nord. Mmh. Alors, pendant longtemps, on n'a absolument pas su ce qu'il y avait en Corée du Nord comme web. On n'avait pas de liste de sites officielle. Elle dit donc comment on peut collecter si on ne sait pas ce qui existe, si on n'a pas les sites et si en gros, il n'y a pas de communication dessus. Et en fait, elle s'est rendu compte qu'il y avait eu une collecte plutôt efficace du web nord-coréen et des sites qui étaient en circulation. C'est à la suite d'une fuite où on a su exactement combien il y avait de sites nord-coréens. Elle dit bon, je vais remonter dans le temps. Et elle voit qu'il y a tout un système de curation humaine qui s'est mis en place pour signaler quand on trouvait une URL nord-coréenne et qu'en fait, ça a été assez bien réussi par des réseaux humains et pas techniques.
C'est beau cette idée que le web nord-coréen, ou en tout cas une partie du web nord-coréen, a été méticuleusement archivé par des gens. On aimerait savoir pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils le font encore, par intérêt scientifique, par intérêt politique, par intérêt affectif, j'en sais rien. Bon, d'accord, on l'a compris, il y a des trous dans ces archives du web. Enfin, elles sont quand même gigantesques, peut-être les archives les plus gigantesques auxquelles l'humain ait eu affaire. D'où une question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir trop d'archives avec tout ça? Je pense toujours à cette magnifique nouvelle de Borges, Funès ou la mémoire. Dans cette nouvelle, Borges imagine un jeune garçon qui, à la suite d'une chute de cheval, se retrouve affublé d'un mal terrible. Il se souvient de tout. Sa mémoire est infaillible, il est devenu hypermnésique. Et très vite, ça lui rend la vie complètement impossible. Ses souvenirs sont trop nombreux. Il passe son temps à se remémorer ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, et il ne peut plus rien accueillir du présent. Il ne peut plus penser. Donc, il meurt très jeune, enseveli sous ses souvenirs. Bon alors, sans aller jusqu'à ce niveau de tragique, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en archivant le web, on se retrouve avec trop de matériel, qu'on se perde dans notre propre mémoire?
Oui. Oui, alors on a à la fois trop et pas assez. J'ai toujours dit c'est à la fois l'abondance et la lacune. Parce que quand tu cherches une page particulière, tu n'es absolument pas sûr de la trouver. Si la page que j'ai décidé de trouver n'a pas été collectée ce jour-là, et qu'entre-temps ça a bougé, je peux ne pas retrouver ce que je cherche dans le site. Par exemple, il y a des sites qui vont changer de design ou faire une refonte complète, et le temps que le robot passe sur le site, il peut s'être passé 6 mois ou autre. Donc on est à la fois jamais sûr de trouver ce qu'on veut, et à la fois effectivement on a énormément. Alors le risque c'est de dire je pars de ce qui existe, et on tombe typiquement dans le côté, enfin ce qu'on critique comme la data-driven science, c'est-à-dire le développement d'études fondées sur ce qui existe, sur les données, plutôt que sur une question de recherche ou une véritable quête de sources.
Donc, quand même, sans aller jusqu'à la tragédie métaphysique de Borges, cette abondance, elle a des conséquences scientifiques. On peut se laisser absorber par la profusion des données et penser que c'est de la masse des données que le savoir émergera, un peu comme par magie, sans poser d'hypothèse. Valérie Schaffer, elle appelle ça la data-driven science. Je ne savais même pas que c'était l'expression consacrée, mais je me souviens qu'à la fin des années 2000, Chris Anderson, c'est le rédacteur en chef du magazine américain Wired, et il est souvent assez visionnaire. Donc Chris Anderson avait publié un texte où il disait à peu près ça. Avec la profusion des données, on va pouvoir faire de la science autrement, sans passer par la vieille méthode consistant à poser des hypothèses, à mener des expériences et à en tirer des résultats. D'ailleurs, le texte s'appelait, je traduis, La fin de la théorie, comment le déluge de données rend la méthode scientifique obsolète. Bon, ça avait été déjà très critiqué à l'époque, mais ce que m'apprend Valérie Schaffer, c'est que c'est aussi une tentation en histoire, pas simplement dans les sciences dures. Mais il y a quand même un autre problème dans tout ça. Dans le web, il y a beaucoup de « nous ». Et donc, archiver le web, c'est nous archiver « nous ». Alors, pour ce qui en est de ce qui est conservé par l'INA et la BNF, c'est évidemment encadré, hein. Il faut être accrédité pour y accéder et on peut pas faire n'importe quoi. Mais ça, c'est pas valable partout.
Là où c'est, par exemple, pour moi plus discutable ou inquiétant, même si j'adore ces sources, c'est le fait que Google ait repris tous ces groups de discussion qu'on a appelés les newsgroups hein, des années 80-90. Et là, il y a les newsgroups français qui sont accessibles en ligne, par exemple, et on retrouve des prises de position avec forcément des propos qui peuvent être parfois racistes ou pas très fins, et que on retrouve ça en ligne effectivement avec parfois l'adresse des individus qui s'expriment.
Et ça pose quand même un gigantesque problème parce que c'est sur une masse d'individus énorme.
Oui, alors c'est dans les newsgroups, c'est pas une masse d'individus énorme parce que c'était quand même une élite un peu technique et scientifique qui s'exprimait. Par contre, on retrouve des prises de position qu'ils ont certes rendues publiques à l'époque, mais c'était il y a 20 ans, et des gens qui depuis ont largement évolué, qui sont toujours effectivement en activité, qui ont changé de position. Donc oui, il y a cette question. Après, les vastes dépôts de données en ligne accessibles. Effectivement, il y a danger, mais enfin, on peut se dire aussi que les dépôts de Google, Facebook, enfin, ceux qui gardent nos données sont dangereux.
En effet, ça, c'est dangereux. On en a déjà parlé au moins 10 fois. Mais paradoxalement, est-ce que ce n'est pas non plus là qu'on trouve ce qu'il y a de plus intéressant sur nous? Enfin, je veux dire par là, est-ce que ce qui dirait le plus sur notre humanité, ce ne sont pas finalement nos conversations Facebook, nos discussions dans les groupes WhatsApp? On peut rêver par exemple à des historiens qui dans quelques siècles auraient accès aux discussions d'une famille dans un groupe WhatsApp. Ce serait quand même extraordinaire. Bon, est-ce que ce sont pas les données de Facebook, d'Instagram, de Messenger qui nous permettraient de plonger dans l'âme humaine? Et celles-là, ces archives, eh ben, elles sont privées et pas ouvertes à la recherche, sauf exception. Bon, de toute façon, plonger dans l'âme humaine, c'est pas forcément le but de l'histoire, hein, me rappelle Valérie Schaffer, et elle a raison. Il y a d'autres disciplines pour ça. En même temps, c'est drôle quand je lui demande quelle archive du web l'a le plus impressionné au cours de toutes ses recherches, eh ben c'est bien de questions humaines, hein, très humaines, profondément humaines, qu'il s'agit.
C'est quand j'ai essayé de remonter effectivement les premiers procès 96 et suivants lancés par la LICRA, l'Union des étudiants juifs de France et autres, et qu'il y avait les premières affaires pour antisémitisme, racisme, etc. Et que je suis tombée dans les archives sur les pages de, par exemple, Front 14, qui était un site néo-nazi agglomérant toute une galaxie de sites du même acabit. Et voilà. Et là, j'étais assez sidérée aussi bien par l'iconographie, par le nombre de liens, de retrouver ces sites, parce qu'évidemment on se dit aussi, mais eux aussi ils ont été conservés, et bien sûr heureusement, et en même temps on a quand même ce malaise hein, en se retrouvant confrontés aux interactions entre les internautes, puisqu'il y a des discussions alors souvent sous pseudonyme, mais qui ont été conservées aussi, et voilà, c'est ça qui m'a le plus impressionnée. Ouais.
Deux leçons. Ce que dit Valérie Schaffer relativise un peu l'idée que le web d'aujourd'hui est plus haineux, plus sale que celui d'hier. C'est pas sûr. C'est juste qu'aujourd'hui, tout le monde s'affronte sur des plateformes communes, alors qu'avant, les choses étaient sans doute plus éparses, plus séparées. On pouvait fréquenter le web sans tomber sur les sites fachos. Aujourd'hui, tout le monde est sur les mêmes réseaux. Deuxième remarque. Tout pourrait accréditer l'idée défendue par certains qu'Internet, c'est la poubelle de l'histoire.
Est-ce qu'Internet est ce lieu que je décris ou non?
Mais non.
Est-ce
non,
que c'est
mais
pas mais cette poubelle-là de
non,
toutes les informations?
Mais vous dérapez.
Ah bon?
C'est Alain Finkielkraut qui avait employé cette expression qui a été ensuite reprise par d'autres. Oui, peut-être, pas faux. Il est bien autre chose, certes, Internet, mais il est ça aussi, la poubelle de l'histoire. Et voilà, le problème, c'est que les poubelles, c'est hyper intéressant. L'archéologie et la paléoanthropologie accordent depuis longtemps une grande attention à nos déchets, aux déchets de nos ancêtres. On compte pas ce qui a été appris sur l'humanité en fouillant les lieux où elle entreposait ses déchets. De quoi on se nourrit, comment on se nourrit, avec quel objet, tout ce qu'on peut apprendre d'une poubelle. Eh ben, là où Internet est une poubelle magnifique, c'est que c'est une poubelle de l'immatériel. Une poubelle de nos curiosités, de nos pensées, de nos fantasmes, de nos angoisses. C'est inestimable de pouvoir fouiller cette poubelle mentale. Et les scientifiques l'ont déjà compris, ils y travaillent. Et c'est donc à ça que ça sert d'archiver le web. Quand j'ai fini l'entretien avec Valérie Schaeffer, j'ai demandé à Fanny et à la technicienne qui enregistrait ce jour-là si elles avaient des questions. Elles m'ont répondu « Ah non, désolé, on était plongé dans la Wayback Machine ». Et là, ça, Valérie Schaeffer, ça l'enchante.
Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ça peut donner envie de la découvrir. Bah tant mieux.
Je remercie beaucoup Valérie Schaeffer. Ses travaux sont pour certains trouvables sur Internet. C'était Le Code a changé, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.